I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达木家正忙着
正在说话。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde pour cette nouvelle semaine. Tous les jours entre 11h et 11h50, on retrouvera bien sûr dans cette émission la chronique frontière d'Alexis Patovstev. Aujourd'hui donc, habiller le monde, les métiers du textile. Demain, mardi, nous parlerons de l'avenir de l'artisanat traditionnel avec Anne Grosfilet, Annabelle Vallard, Daniel Lebonnois. Mercredi, on parlera de la fripe en Afrique. Jérôme Lambard, Kenne Foudoup, Oumoussi seront nos invités. Jeudi, on parlera du vêtement féminin en terre musulmane. Mais aujourd'hui, après la Chine, les nouveaux damnés du textile. Le 1er janvier 2005, l'accord international qui régissait la filière textile depuis une trentaine d'années a été modifié. Il avait été instauré pour protéger les industries du Nord face à l'ouverture progressive des marchés aux produits textiles des pays du Sud, beaucoup plus compétitifs en raison bien sûr du faible coût de leur main-d'œuvre. Désormais, les importateurs peuvent choisir librement leur fournisseur. Alors, la Chine reste bien sûr le premier exportateur de vêtements au monde, mais on observe déjà des délocalisations dues à l'augmentation du prix de la production. Aujourd'hui, de nouveaux pays où la main-d'œuvre est encore moins chère font leur apparition dans le secteur textile. Alors, quels sont les nouveaux acteurs? Comment évolue la condition de la main-d'œuvre ouvrière dans le textile dans ces régions? On en parle aujourd'hui avec Jean Ruffier, qui est sociologue et économiste. On retrouvera tout à l'heure un correspondant pour le Asia Times Online depuis Dhaka au Bangladesh. On retrouvera également depuis Pékin le correspondant Radio France, Sébastien Lebelzik.
La nouvelle loi sur le contrat de travail inflige de lourdes amendes aux patrons coupables d'infractions. La loi met en place des primes de précarité, elle impose de justifier les licenciements et surtout c'est la première fois qu'est instauré en Chine un contrat à durée indéterminée dans le monde du travail.
Si une entreprise fait signer deux contrats d'affilée à durée déterminée, le troisième sera presque forcément un contrat à durée indéterminée.
Des avancées sociales qui ne sont pas du goût de tout le monde. Les entreprises étrangères ont pesé de tout leur poids pour édulcorer le texte d'origine. Certaines ont même menacé de délocaliser dans des pays à la législation plus laxiste, comme le Vietnam ou le Bangladesh. En cause, une hausse sensible des coûts salariaux.
Il y a certaines personnes qui ont éprouvé que la Chine, c'est l'Eldorado du marché du travail. C'est-à-dire on pouvait très facilement licencier ou économiser des salaires ou des primes. Maintenant, ça s'est terminé. Peut-être il faut savoir aussi que c'est pour la première fois qu'il y a un véritable code de travail qui est implémenté.
Et pourtant, la loi ne prend aucune mesure en faveur des travailleurs les plus fragiles, les millions d'employés des entreprises illégales chinoises.
Voilà, alors 2008, ces nouvelles lois sur le contrat du travail, évidemment, ont été une avancée importante. En même temps, il va falloir mesurer un petit peu réellement sur le terrain ce que ça a changé pour les ouvriers. En tout cas, ça n'a pas été sans répercussion sur les productions qui se font sur le sol chinois, notamment pour les entreprises étrangères. On en entendait un extrait là, ces entreprises étrangères pour qui ça engendre des surcoûts, des problématiques qui n'existaient pas avant et qui, du coup, voilà, entraînent une forme de délocalisation. Bonjour Jean Ruffier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, vous êtes économiste, vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous êtes directeur du Centre franco-chinois de sociologie de recherche sur les organisations de l'université Sun Yat-sen à Canton, je prononce correctement ?
Tout à fait.
Et puis vous aviez publié, c'était en 2006, « Faut-il avoir peur des usines chinoises, compétitivité et pérennité de l'atelier du monde ?» Cette délocalisation, notamment dans le secteur textile, ça c'est un vrai phénomène qui est de plus en plus prégnant en Chine. On sent clairement dans les chiffres du secteur textile chinois ce phénomène.
Ah, on le sent, oui. On voit des usines se fermer, enfin des grandes usines qui ferment leurs portes. C'est des choses qu'on voit assez couramment.
Des grandes usines emblématiques, ouais.
Emblématiques, non. Non, parce que le problème de l'emblématique du textile, les marques, elles sont étrangères, elles ne sont pas chinoises. Mmh. Il y a depuis quelque temps quelques marques chinoises qui sont en train d'essayer de prendre pignon sur rue. Ça leur est difficile parce qu'elles n'ont pas les budgets de publicité des marques occidentales.
Vous pensez à qui ? Quelle marque ?
Alors, ça sera un peu pénible de le dire en chinois parce que je ne sais pas. Simplement, c'est les marques qui se vendent localement. Et c'est ce que nous, on conseille aux patrons textiles chinois, c'est de développer un marketing local, puisqu'ils ne peuvent pas lutter contre Levi's, contre Benetton, c'est impossible. Ils aimeraient bien, ils peuvent travailler pour eux. Mais quand ils travaillent pour eux, ils vont toucher le prix du travail main-d'œuvre, c'est-à-dire quelque chose qui est à peu près 10% du prix de la publicité.
Mmh. Mais est-ce que vous diriez que le textile chinois est en péril aujourd'hui ?
La croissance chinoise est en difficulté. Le textile, on va parler de l'habillement, puisque je crois qu'on est plutôt sur l'habillement que sur le textile. Hein, c'est plus, l'habillement, il n'est pas en danger, puisque c'est une population qui s'enrichit un peu, qui s'habille plus. C'est-à-dire que, certes, la Chine a concentré son textile sur l'exportation, mais en fait dans un pays qui n'achetait pas. Quand le pays commence à acheter, c'est comme le cinquième de l'humanité, il y a quand même des marges de progression des entreprises textiles chinoises.
Jean Ruffier, quand on parle des salariés du textile, du vêtement en Chine, évidemment ça recoupe des réalités extrêmement différentes, c'est pas du tout pareil lorsqu'on a affaire aux petits tailleurs chinois, à la grosse usine, aux petits ateliers de fabrication, en fait ça recoupe des réalités extrêmement diverses tout ça.
Ah, bien sûr, ça recoupe des...
Non mais une fois encore, c'est pour dire que ce ne sont pas seulement des usines géantes qui fabriquent des vêtements en Chine.
Non, l'habillement est quand même une technologie mature. Tout le monde peut faire de l'habillement. Et si vous faites de l'habillement avec une machine à coudre, vous pouvez arriver à des taux de productivité qui seraient ceux d'une grande usine si vous débrouillez bien. C'est-à-dire qu'en gros, dans le textile, tout le monde peut faire des vêtements partout dans le monde. La Chine, elle a déplacé le marché mondial pendant toute une période en jouant effectivement sur les bas salaires et en jouant aussi sur une capacité d'augmentation de la production. C'est-à-dire que on parle, par exemple, beaucoup des augmentations de temps du travail, des temps de travail absolument absolu, énorme, 7 jours sur 7, on peut pas faire plus. Ça, c'est des situations d'agrandissement. C'est-à-dire tout d'un coup, le marché s'agrandit, on a plus de clients et l'entreprise va travailler à full. Et puis, à côté des entreprises, vont se créer d'autres entreprises, etc. C'est ça, la force de la Chine, c'est celle-là. Elle peut augmenter sa capacité productive.
Alors la vraie question, Jean Ruffier, qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, on l'entendait tout à l'heure dans notre extrait, il y a eu un code du travail, de nouvelles lois, et la question qu'on se pose, c'est au fond, dans quelle mesure est-ce que ça a changé réellement le sort des ouvriers qui travaillent dans le secteur textile ? Est-ce que réellement ça a eu un impact ? Est-ce qu'au fond, ça en a eu davantage pour les patrons de ces usines plutôt que pour les ouvriers ? Enfin, essayons de mesurer un peu sur le terrain ce que ça a changé concrètement pour ces travailleurs.
Alors, la Chine n'est pas le pays du droit. Hein. C'est-à-dire que, donc, vous pouvez faire de nouvelles lois. Le problème, c'est leur application. C'est clair. Et nous, les sociologues, on est habitués à dire que le droit évolue en fonction de la société elle-même. C'est-à-dire, ce qui évolue, c'est les relations de pouvoir patron-salarié. Là, c'est clairement, il y a une évolution. Il y a une évolution au profit des salariés qui deviennent... Bien sûr, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des syndicats comme chez nous, ils ne peuvent pas s'organiser, mais quelque part, pour des raisons économiques, les entreprises commencent à manquer de main-d'œuvre parce qu'elles n'arrivent pas à justifier le déplacement des ouvriers ruraux.
Oui, parce que c'est ça, hein, pendant très longtemps, le gros, au fond, de la main-d'œuvre de ces usines textiles chinoises, il avait été assuré par l'exode rural. Et aujourd'hui, c'était voilà, les gens qui venaient des campagnes pour grossir le rang de ces usines-là. Et aujourd'hui, cet exode-là, il est plus difficile, pour un certain nombre de raisons d'ailleurs. Hein. D'abord parce que le prix de la vie, tout simplement, dans les villes a terriblement augmenté, et que c'est beaucoup plus difficile pour eux de rester dans ces villes-là. Donc c'est un phénomène qui s'est considérablement ralenti.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc, les entreprises ont plus de mal à recruter, ce qui est bon pour les salaires. Et ce que j'ai pu observer, c'est que depuis 2009-2010, les ouvriers se sont passés les trucs pour faire grève. C'est difficile de faire grève en Chine, puisque c'est interdit. Enfin, interdit plus ou moins, je ne sais pas si... Je ne saurais pas vous dire si c'est complètement interdit ou pas, mais disons que c'est mal vu. Et ce qui est surtout interdit, c'est d'organiser. Faire une organisation concurrente du parti, c'est absolument interdit. Et on ne peut pas compter sur le syndicat chinois pour déclencher des grèves. Donc, vous ne pouvez pas être meneur d'une grève sans prendre des risques considérables. Donc, on fait une grève à l'unanimité. ils ont appris avec les systèmes Internet, les téléphones, les genres de MSN chinois, de s'entendre pour déclencher une grève en même temps. À ce moment-là, la grève démarre, l'usine s'arrête, il n'y a pas de meneur visible et le patron doit deviner ce qu'il faut faire pour arrêter la grève.
Et, donc il n'a pas d'interlocuteur en fait.
Il n'a pas d'interlocuteur. Quand il a un interlocuteur, il faut que cet interlocuteur sache, il le sait en général, qu'il brûle. C'est-à-dire que vous êtes interlocuteur pour une fois. Et ensuite, vous avez intérêt à partir. C'est ce que font les interlocuteurs. C'est-à-dire que on a fait des délégués, parce que la loi autorise les délégués maintenant. Donc il y a eu des délégués. Mais les délégués ne sont pas restés. Ils ne restent pas après les conflits. Ils disparaissent.
Comment vous expliquez qu'on ait pu de plus en plus parler de ces grèves? Parce que, évidemment, on en a beaucoup entendu parler dans les médias occidentaux, mais pour une raison assez claire, c'est que on en a parlé également dans les médias chinois, parce que les pouvoirs chinois ont laissé sortir ces problématiques dans la presse.
Tout à fait. Les pouvoirs chinois étaient assez contents de monter en épingle des usines, disons, asiatiques, étrangères à la Chine, en grève. Ils ont visé ça, ils ont ciblé ça. Donc quand il y a eu une grève chez Honda, ou comme il y en a actuellement dans des entreprises textiles taïwanaises ou hongkongaises, ça passe dans les journaux chinois.
Mais rassurez-moi, il n'y a pas des grèves uniquement dans ces entreprises-là qui produisent l'Occident.
Non, c'est assez compliqué pour un journal chinois, un quotidien chinois, de parler de conflits sociaux. Il le fait, il est bloqué par la censure. Donc si on en parle, c'est parce que le gouvernement chinois veut qu'on en parle. Le gouvernement chinois n'a pas du tout envie qu'on parle des grèves dans les usines chinoises. Par contre, dans les universités chinoises, les spécialistes du travail chinois, eux, débattent beaucoup de ça. Parce qu'ils voient le nombre augmenter et ils se posent la question de qu'est-ce qui va se passer, quel est le pas suivant. C'est-à-dire que nous, on a entendu parler des grèves en 2010, essentiellement. En 2011, j'ai l'impression qu'il y a eu plus de grèves ouvrières dans le sud de la Chine qu'en 2010. Et les augmentations de salaire se sont poursuivies à un rythme assez important. Donc,
comment ça se passe, les augmentations de salaire? Est-ce que ce sont les patrons qui le décident parce qu'ils sont face à des situations finalement qui les obligent à prendre ce type de mesures? Est-ce que ce sont les pouvoirs publics, alors, et puis à quelle échelle aussi? Est-ce que c'est vraiment à l'échelle locale qu'on essaye de mettre la pression pour augmenter les salaires? Comment ça se passe?
Alors, le salaire minimum en Chine, il est par ville. Donc chaque ville fait son salaire minimum. Et donc, c'est un fouillis inextricable. Mais c'est assez facile de repérer Shenzhen, un salaire minimum plus élevé que Canton plus élevé que Dongguan, etc. Et Dongguan plus élevé que le centre de la Chine. C'est facile. Donc, vous avez des usines qui fonctionnent en dessous du salaire minimum. Alors, moi, je ne peux pas appeler ça clandestin, puisque j'ai passé mon temps à visiter ces usines. Si elles étaient clandestines, je n'irais pas dedans. Simplement que le pouvoir laisse faire, il trouve que c'est pas si mal que ça, que ça crée de l'emploi et ça a de l'harmonie sociale, si vous voulez. Et puis, si on les ferme, on ne crée pas plus de grosses entreprises. Je veux dire que quand vous avez un salaire à 200 euros par mois, eh bien, vous ne pouvez créer qu'un certain nombre d'emplois. Si ce salaire est à 50 euros par mois, vous pouvez en créer beaucoup plus. Donc, le pouvoir joue un peu avec ça. C'est pour ça que moi, je suis assez perplexe sur les lois, encore que je dis ça va dans le bon sens. Il n'y a aucun doute, ça va dans le bon sens.
Alors, quand il y a des entreprises qui ferment en Chine, elles ouvrent évidemment ailleurs. Elles ouvrent, on en parlera tout à l'heure, au Bangladesh. Elles ouvrent aussi au Cambodge. On va aller du côté du Cambodge.
Hey, dream city Dhaka, Arabata Shinaki Dhaka, a high tech city Dhaka, a kaka, lot jaiga yo.
Are? Ekikan hala pare pare, abar ki chiki Dhaka duka ki chita hala buzor parta chena maneki.
Alors on va retrouver dans un instant, alors depuis en effet pas le Cambodge mais depuis Pékin, Sébastien Le Belzic, parce que au Cambodge vous y êtes allé, Sébastien Le Belzic, et c'est vrai que avec le tourisme, avec l'industrie du bois, eh bien c'est l'une des seules richesses du pays, c'est quasiment 90% des exportations et des centaines de milliers d'ouvrières, parce que ce sont souvent des femmes qui travaillent dans des conditions assez déplorables.
Ma? La direction nous demande d'apporter du tissu chez nous pour que l'on fasse du travail en plus. Et la sécurité de l'usine nous a enfermés à l'intérieur pour nous forcer à travailler plus.
Regardez, lui a été battu, il a pris des coups dans le dos. Ce genre de situation est de plus en plus courant au Cambodge. En général, les filles se mettent en grève quand leurs conditions de travail sont vraiment terribles. Ici, ça fait 3 jours qu'elles sont en grève et ça durera tant qu'elles ne pourront pas négocier avec la direction.
Maintenant, toutes les usines ont signé un accord avec l'Organisation internationale du travail. Et c'est cette organisation, l'OIT, qui contrôle désormais les conditions de travail des ouvrières. Et l'OIT a sorti un rapport il y a quelques semaines, et dans ce rapport, il est écrit que la situation des ouvrières s'est nettement améliorée.
Allez, on retrouve Sébastien Le Belzic, correspondant Radio France à Pékin. Bonjour Sébastien Le Belzic. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez eu l'occasion de rencontrer des jeunes ouvrières, des jeunes cambodgiennes qui travaillent dans le secteur textile au Cambodge. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit d'abord de leurs conditions de travail? Comment est-ce que vous les avez, qu'est-ce que vous avez ressenti de tout ça? Comment est-ce que ça a évolué aussi, bien sûr, ces conditions ces dernières années? Qu'est-ce que vous en avez compris, Sébastien Le Belzic?
Alors moi, c'est vrai que je suis un peu les mouvements ouvriers depuis quelques années que je suis basé en Asie. Et l'idée, en fait, c'était de voir dans quelle mesure la production textile chinoise, le prolétariat chinois, avait fini par s'étendre à ces pays d'Asie du Sud-Est et notamment au Cambodge. Alors c'est vrai qu'au Cambodge, il y a eu un développement récent et assez important de l'industrie du textile parce que le gouvernement a tout fait pour essayer de récupérer des investissements, et également parce que certaines entreprises qui étaient peut-être les moins bien disantes, si vous voulez, sont parties s'installer au Cambodge, pensant pouvoir produire moins cher qu'en Chine, ce qui fait que sur place, on a retrouvé des ateliers qui nous rappelaient la Chine d'il y a 10 ans, avec des conditions de travail qui étaient absolument dramatiques, avec une climatisation inexistante dans un pays où il fait tellement chaud, avec des violences physiques et des conditions de travail extrêmement difficiles.
Quand vous dites pensant que ça serait beaucoup moins cher qu'en Chine, est-ce que ça veut dire qu'au fond, c'est pas le cas? C'est pas moins cher de produire au Cambodge que de produire en Chine?
Alors après, si vous comptez au niveau du salaire horaire, c'est moins cher qu'en Chine. Si vous calculez en fonction de la qualité du produit fini, de l'encadrement des ouvrières, de la facilité d'exportation,
des infrastructures,
ça n'a rien à voir avec la Chine. Et ça explique aussi pourquoi, si vous voulez, la Chine reste encore le numéro un mondial dans ce secteur-là. Malgré la concurrence de l'Indonésie, du Vietnam et du Cambodge, la Chine, si vous voulez, reste toujours à la tête de ses productions parce qu'il y a le port de Shanghai, parce qu'il y a le delta de la rivière des Perles, le port de Hong Kong, des capacités de production qui sont énormes et de mobilisation d'une main-d'œuvre qui sont très importantes. Les infrastructures au Cambodge sont quasi inexistantes. Il ne faut pas imaginer produire en masse, en très grande quantité dans ce pays-là. Ça n'a absolument rien à voir. Donc ce sont plutôt des sous-traitants pour une production, on va dire, complémentaire. Il n'y a pas de risque encore, si vous voulez, que la production textile chinoise...
Je me permets d'intervenir.
Jean Ruffier.
Oui, je me permets d'intervenir sur le fait que vous disiez que les conditions de travail étaient pires en Chine il y a 10 ans que maintenant. Moi, je ne dis pas des choses comme ça. C'est-à-dire que, puisque j'ai pu observer les choses, les conditions de travail, formellement, se sont améliorées. C'est-à-dire qu'effectivement, on va trouver un peu plus de climatisation, on va trouver un peu plus d'organisation dans les ateliers. Mais en même temps, quand on organise davantage, on peut faire travailler les gens plus fortement. C'est-à-dire que si vous logez dans l'atelier, vous pouvez travailler 18 heures par jour. Mais à quel rythme vous travaillez? Est-ce que vous travaillez plus qu'en travaillant on a bien vu sur des exemples sur la France, que la France, avec des horaires assez limités, a une productivité très élevée. Ça veut dire que les gens travaillent énormément, en peu de temps. En Chine, ils ont travaillé de plus en plus. Et ça, c'est pour ça qu'il faut relativiser en disant, au départ, dans un pays pauvre, les conditions de travail sont mauvaises. Elles ne sont pas si mauvaises que ça parce qu'il faut compter sur le rythme de travail. Et le rythme de travail, il est très bas.
Sébastien Le Belzic.
Oui, il est très bas au Cambodge. En Chine, je pense qu'il est quand même mieux organisé, plus important. La productivité aussi en Chine a quand même augmenté que le salaire, notamment ces deux dernières années. Donc ça explique aussi que la main-d'œuvre en Chine est beaucoup plus... plus cher qu'elle ne l'est au Cambodge. Mais je parlais en termes de mobilisation de la capacité de production. Les usines que l'on peut voir à Dongguan n'ont rien à voir avec les ateliers textiles au Cambodge. Et donc, il n'y a pas de risque, si vous voulez, d'une fuite de la production textile vers l'Asie du Sud-Est, en tout cas, pas tout de suite.
Ce que je comprends, en tout cas, dans ce que vous nous disiez, Sébastien Lebalzik, à l'instant, c'est qu'on a affaire à beaucoup de sous-traitants, qu'au fond, ce secteur du textile est peut-être plus fragile encore au Cambodge qu'il ne l'est en Chine. Comment est-ce que cette industrie du textile cambodgien a résisté à la crise? Est-ce que, de ce côté-là aussi, il y a des usines qui ferment? C'est pas aussi rose qu'on pourrait l'imaginer.
Il a très mal résisté. Hein. Il y a eu beaucoup de fermetures, beaucoup plus de pression, une extrême. Si vous voulez, le secteur est très peu encadré et il n'est lié qu'à l'exportation au Cambodge. Tandis qu'en Chine, il essaye actuellement de se. Quand les exportations baissent, il se rabat sur la consommation intérieure. Elle est beaucoup plus importante en Chine. Donc ça permet d'amortir dans une moindre mesure les aléas de la crise, mais le Cambodge a vraiment beaucoup souffert pendant la crise économique et l'embryon d'industrie textile qui avait été mise en place ces dernières années est véritablement en difficulté actuellement.
Sébastien Lebalzik, je voudrais qu'on parle un peu de ces jeunes ouvrières que vous avez eu l'occasion de rencontrer. Je voudrais qu'on essaye de comprendre un petit peu leur parcours parce qu'on sait au Cambodge particulièrement que le monde du textile et le monde de la prostitution sont particulièrement liés. La frontière au fond entre les deux est extrêmement poreuse. Beaucoup de jeunes cambodgiennes qui quittent le métier du textile pour se prostituer. Est-ce que c'est un phénomène qui est toujours aussi fort, qui s'aggrave? Comment est-ce que vous avez senti les choses?
Écoutez, c'est vrai que le gros problème du Cambodge, c'est qu'il n'y a pas de travail, tout simplement. Donc la prostitution, depuis la fin du régime Khmer Rouge, l'arrivée notamment des casques bleus dans le pays, c'est considérablement développé. Il y a un embryon d'industrie du tourisme sur place, donc ça crée aussi des emplois, mais ça reste extrêmement limité. Donc la prostitution, c'est effectivement... D'ailleurs, c'est pas de la prostitution forcément à temps plein, mais il arrive que les jeunes femmes, une fois le travail terminé, aillent dans les bars et se prostituent à temps partiel. Alors c'est vrai que
c'est des activités complémentaires, vraiment.
C'est complémentaire. Mmh. C'est un revenu complémentaire parce que il faut bien voir que l'industrie textile au Cambodge n'est absolument pas encadré, protégé. Il y a quelques syndicats, mais ils n'ont aucune force. Et si une entreprise décide de mettre la clé sous la porte ou de ne pas payer ses employés, ils ne pourront rien faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui récemment ont fermé en raison de la crise. Donc c'est extrêmement fragile et ça explique qu'effectivement, il y a un passage de l'un à l'autre, notamment parce que ces ouvrières sont essentiellement des femmes qui travaillent dans ces usines.
Sébastien Lebalzik, vous avez l'air de dire que les syndicats sont incapables d'améliorer la situation de ces travailleurs. Pourtant, ils existent, ils arrivent quand même à s'organiser, à faire des choses.
Oui, mais le Cambodge est un pays qui reste encore extrêmement fragile, avec un pouvoir fort, avec une corruption extrêmement importante, et les syndicats sont facilement achetables. Ils sont aussi, si le gouvernement décide de mettre un terme à un mouvement social, il va utiliser la force, et donc les syndicats ne vont pas se mettre en avant, et le gouvernement veut absolument aussi éviter une dérive de ces manifestations.
Jean Ruffier.
Oui, en Chine, la situation est un peu différente, c'est-à-dire que il n'y a pas d'organisation concurrente au Parti communiste. Ça n'existe pas, on n'a pas repéré, c'est insignifiant. C'est le parti lui-même, le syndicat lui-même, les autorités publiques et un peu les intellectuels qui tiennent lieu d'agitateurs politiques. C'est-à-dire que, quelquefois, le parti, par exemple, promeut de loi, parce qu'il pense qu'il faut améliorer la situation des salariés. Il le pense vraiment. C'est-à-dire que... Et quand on discute avec les responsables, on a des discours très, très différents. C'est-à-dire que vous allez avoir des responsables syndicaux qui vont vous dire que leur rôle, à eux, c'est la paix sociale. C'est-à-dire que s'il y a une grève, on va envoyer des milices pour casser les grévistes. Et puis vous en avez aussi, et à Canton, ça arrive assez souvent, qui disent que dans les grèves, leur rôle à eux, c'est de faire gagner les ouvriers. Et alors, ils arrivent et ils expliquent aux ouvriers comment ils peuvent gagner, quelle augmentation de salaire il faut demander, etc. Et voire même, quelquefois, s'interposer entre ouvriers et patrons. Donc, on a toutes les possibilités. On a surtout une réflexion forte, c'est-à-dire que l'ambiguïté du gouvernement chinois, c'est que c'est à la fois une dictature qui est jalouse de son pouvoir, qui ne veut pas, qui peut être extrêmement violente quand elle se sent menacée, mais en même temps, il y a une idéologie communiste, et dans l'idéologie communiste, les ouvriers, c'est quand même important. Donc, on fait de temps en temps quelque chose pour eux. Pas toujours, je veux dire que dans le fond, pas toujours.
Sébastien Le Belzic, il y a une chose quand même qui a changé récemment au Cambodge, c'est qu'il y a eu des accords qui ont été signés avec l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Est-ce que, une fois encore, ces accords internationaux ont changé des choses sur le terrain, ou c'est au fond, voilà, comme vous nous le disiez, s'agissant des syndicats, ce sont des choses qui sont sans effet sur le terrain?
Écoutez, ces accords, on peut le dire, quand même changé quelque chose, parce que tout ce qui concerne les Nations Unies ont beaucoup d'influence sur le gouvernement cambodgien, parce qu'il est très dépendant des subsides internationaux. Mais la difficulté actuellement, c'est qu'en raison de la crise, ces entreprises sont beaucoup plus fragiles, parce que ce sont tous en fait des sous-traitants, des grandes marques étrangères. Donc ils font ils dépendent d'une autre entreprise qui se trouve parfois dans un autre pays, notamment en Chine, et ils ont peu de marge de manœuvre pour garder leur emploi si jamais l'entreprise devait fermer. Et par rapport à ça, l'OIT ne peut pas faire grand chose. Alors même si les conditions de travail devaient s'améliorer, pour l'instant la grosse difficulté au Cambodge, c'est d'arriver à conserver des emplois et à continuer à développer cette industrie textile, qui était quand même une chance pour le pays de sortir de la crise.
Jean Ruffier, l'Organisation internationale du travail est tout aussi impuissante en Chine,
elle existe, elle est implantée, mais je pourrais dire que son efficacité en termes d'amélioration de conditions de travail est très limitée. Je crois qu'ils le diraient eux-mêmes. Par contre, ce qui a eu un effet évident, ce sont les campagnes sur les marques. C'est-à-dire que quand on a fait des campagnes en disant « Mais est-ce que nos vêtements ne sont pas faits par des enfants ? Ou est-ce qu'on ne tue pas les ouvriers en sablant les jeans, etc. ?» Ça a des effets. C'est-à-dire que ça se traduit par des interventions dans les entreprises, des visites, des contrôles dont les entreprises ont peur. Il y a eu des améliorations non négligeables qui sont liées à ça. Je peux dire qu'il y a encore du travail à faire.
Merci beaucoup Sébastien Le Belzic. Un mot encore sur cette question-là, ou est-ce qu'on en a fini Sébastien Le Belzic ?
Non, puisqu'on parlait de la Chine, moi je trouve intéressant, on en a beaucoup parlé récemment, c'est ce phénomène de délocalisation vers l'Ouest, et puisque effectivement les salaires ont beaucoup augmenté dans le sud-est de la Chine, on constate de plus en plus que les grandes entreprises, les multinationales décident de s'installer dans les provinces de l'ouest de la Chine, qui sont des provinces à la fois d'où sont originaires la plupart de ces ouvriers migrants, donc elles se rapprochent de leur bassin d'ouvriers, et des provinces aussi où le salaire minimum est beaucoup moins important. Donc c'est un mouvement qui est bien engagé, puisque j'étais récemment à Jiangzhou, qui est au centre de la Chine, la capitale de la province du Henan, et sur place le gouvernement local a vraiment beaucoup investi pour attirer les multinationales et compte embaucher plus d'un million d'ouvriers dans cette province. Donc ça constitue pour les gens sur place vraiment une chance de ne pas avoir à partir travailler dans les provinces du sud-est. Et Foxconn notamment, qui fabrique le célèbre iPhone d'Apple, a ouvert sur place une très grande usine avec un aéroport qui lui est dédié et une tranche aussi qui a été construite. Donc c'est un phénomène assez important qui se développe en Chine et qui évite aussi ces délocalisations dans les pays d'Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam et au Cambodge. Pour l'instant, la délocalisation, elle reste plutôt à l'intérieur de la Chine.
Alors ça, c'est très intéressant, Sébastien Le Belzic, et j'allais justement en parler avec Jean Ruffier, c'est qu'en effet, pour éviter de délocaliser au Cambodge, au Bangladesh, et puis aussi, vous avez raison, peut-être pour enrayer les disparités entre les différentes régions, la Chine a mis en place cette politique de délocalisation à l'intérieur même du pays. Et là, d'après ce qu'on entend, hein, Sébastien Le Belzic, ça a l'air d'être relativement efficace. Le bilan a l'air d'être plutôt positif, Jean Ruffier, sur cette question.
Je suis un peu plus réservé sur le bilan. Je veux dire que, avec mes collègues chinois, quand on a travaillé là-dessus, c'est vrai que le gouvernement central, les gouvernements de provinces périphériques font beaucoup d'efforts pour attirer les industries. Mais, je veux dire, ils font beaucoup d'efforts. Mais si on savait comment, dans un pays peu industrialisé, attirer l'industrie, on le ferait. Il n'y aurait plus de tiers-monde. C'est-à-dire que ça fait partie de mon sujet. C'est-à-dire que si moi je pouvais dire, vous êtes un pays pauvre, vous voulez des usines, voilà comment il faut faire pour les avoir, si j'avais la recette, je la donnerais. Et puis les gens l'appliqueraient parce qu'ils veulent l'appliquer. Donc, je suis un peu sceptique sur le résultat parce que je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, les Chinois trouveraient ce que les autres n'ont pas trouvé. Rappelez-vous, en France, on a eu la même volonté politique avec la Datar. Il s'agissait de mettre l'industrie en Bretagne, en Creuse, en Corrèze, etc. Quels sont les succès ? Quand l'État investit massivement quelque part, il peut créer quelque chose, effectivement. Mais c'est un coût, ça a un coût social, économique considérable. Et quelquefois, c'est un peu sans lendemain. Mmh. Alors, par exemple, Foxconn, qu'on met beaucoup en valeur, parce que le gouvernement y tient beaucoup, le gouvernement a investi énormément sur Foxconn. Le premier investissement qu'il a fait, d'ailleurs, c'est mettre en difficulté Foxconn avec les suicides. Les premiers mouvements dont on a parlé dans les usines étrangères, c'était ces suicides de Foxconn. Pourquoi ? Parce que les journaux chinois, chaque fois qu'il y avait un suicide à Foxconn, ils sont quand même 50 000 personnes, ça veut dire que ça fait un certain nombre de suicides. Ils pouvaient en parler d'un suicide par semaine, sans problème. À ce moment-là, Foxconn s'est trouvé en difficulté. Et le gouvernement lui a arraché la décision de partir. Ensuite, Foxconn a négocié pour avoir, comme on le voit, des conditions qui sont acceptables pour lui. Mais quand même, je ne suis pas sûr que Foxconn, de lui-même, aurait été dans le Renan s'il n'y avait pas été un peu obligé par ce qui se passait dans le Sud.
Vous voyez, Sébastien Lebelzik, hein, Jean Ruffier, ici, est un peu plus mitigé sur ces délocalisations, sur ces politiques de délocalisation à l'intérieur de la Chine.
Cela dit, je suis d'accord avec le gouvernement chinois. Si on pouvait le faire, il faudrait le faire.
Sébastien Lebelzik.
C'est vrai que c'est le gouvernement qui détient les clés. Il a la volonté de le faire. Après, il faudra. C'est extrêmement récent, donc il faudra voir dans quelle mesure on ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul. Il faut aussi gérer cette situation dans les provinces du Sud-Est. Là, les industriels de Hong Kong s'inquiètent beaucoup de voir le salaire augmenter et les entreprises fermer dans la région du Guangdong. Donc, ils n'ont pas envie non plus de voir toutes les entreprises partir à l'ouest de la Chine. Et de toute façon, ce n'est pas possible. Mais étant donné la puissance industrielle de la Chine, on peut imaginer que quelques grandes entreprises pourraient quand même permettre de rééquilibrer la situation. C'est vrai que Guangzhou, c'est une ville énorme, de 9 millions d'habitants, et le Renan, c'est 94 millions d'habitants, donc c'est plus grand que les Philippines. Ça représente quand même une puissance en termes de population très importante. Donc le gouvernement chinois a véritablement la volonté d'essayer de fixer ces populations sur place pour éviter des mouvements de migration trop importants et aussi apporter du travail à ces provinces qui sont relativement développées avec des aéroports, des lignes de chemin de fer, des universités, et essayer de passer de grandes entreprises d'État qui étaient, je crois que c'était PetroChina, qui est le plus grand pétrolier chinois d'État, qui était le premier employeur à Guangzhou. Donc maintenant, ce sera Foxconn, une entreprise entièrement privée. Voilà, c'est un mouvement de fond. Après, il est évident qu'il faut essayer de rééquilibrer la croissance à l'intérieur de la Chine. Mais c'est le gouvernement, lui, effectivement, qui détiendra les clés de ces négociations avec les entreprises. Et ils ont bien joué avec Foxconn, parce que c'est vrai que l'arrivée de Foxconn à Guangzhou a permis de donner un grand bouffée d'air à cette province. Mais sans l'affaire des suicides, je ne pense pas effectivement que Foxconn serait parti de cette province du sud-est de la Chine.
Merci beaucoup Sébastien Lebelzik, en tout cas en direct avec nous depuis Pékin, le correspondant de Radio France. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On va retrouver notre ami Alexis Patovtsev. Il est 11h passé de 34 minutes. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. Alexis, qui aujourd'hui dans sa chronique Frontières se demande si d'ici allez, une dizaine d'années, d'ici 2020, l'Allemagne et le Danemark ne pourraient pas, au fond, cesser d'être séparés par la mer. Écoutez.
« Si par aventure vous avez une soudaine envie de prendre le train pour aller de la ville allemande de Lübeck à la capitale du Danemark, Copenhague, vous serez obligé de faire un bout de voyage en ferry. Vous entendez justement comment le train entre dans le ventre d'un bateau à Puttgarden sur l'île de Fehmarn en Allemagne, relié au continent européen par le pont, et puis effectue un voyage de 45 minutes et arrive à Rødby sur l'île de Lolland au Danemark. Mais bientôt, cela va changer. Les parlements allemands et danois ont adopté en 2009 un projet de liaison fixe ferroviaire et routier entre les deux pays. Au début, on a pensé construire un pont sur le modèle du célèbre pont qui relie déjà le Danemark et la Suède. Mais finalement, on a opté pour une autre solution. Ce sera un tunnel. Et quel tunnel ? L'un des plus longs au monde. Le projet d'infrastructure les plus ambitieux en Europe. Long presque de 20 km, d'une largeur de 40 mètres et d'une hauteur de 10 mètres, il comprendra 4 grandes voies de circulation, des tunnels d'évacuation et des tunnels techniques. Le gros œuvre de l'ensemble sera construit en tronçon sur le continent, puis amené par bateau et immergé dans une tranchée creusée dans le fond avant d'être recouvert des graviers pour reconstituer le fond de la mer avant que la nature n'y reprenne ses droits. La construction devrait durer de 2014 à 2020 pour un coût estimé de 5,5 milliards d'euros. Quand le tunnel sera en service, il réduira la durée du trajet entre Hambourg et Copenhague à 3 heures contre 4h30 minutes actuellement. Le Danemark finance seul le projet. En retour, il jouira de la propriété du tunnel et en percevra les droits de péage. Il y a une raison simple pour cela. Le tunnel, bien perçu au Danemark, n'est pas très populaire en Allemagne.
Proteste vor der dänischen Botschaft.
Ausstieg jetzt!
Das Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarn-Belt-Querung will weder Brücke.
La télévision allemande Deutsche Welle fait écho des protestations devant l'ambassade du Royaume de Danemark. Un groupe d'activistes locaux ne veut pas de ce tunnel. Car le projet va mettre la nature en danger, va affecter négativement le tourisme sur l'île de Fehmarn et va mettre au chômage les employés de la compagnie de ferry. Après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de relier toutes les îles à tous les continents ? L'hebdomadaire Der Spiegel raconte l'histoire d'un ingénieur allemand, Hendrik Kerlen, 73 ans, spécialiste justement des infrastructures. Même s'il habite sur Fehmarn, sa propre existence ne sera pas du tout perturbée par ce projet. Et vu son parcours professionnel, il aurait été la personne idéale pour convaincre la population allemande du bien fondé du projet. Si pour la première fois dans sa vie, il prend part à une contestation, c'est parce qu'il réclame l'honnêteté. En 2004, le ministre du Transport danois a publié une étude sur le rapport coût-bénéfice du projet. Eh bien, ce rapport est de 1 à 1,25. Selon les critères de la Banque mondiale, il s'agit donc d'un projet marginal. Et même ce chiffre, pas très impressionnant, il faut le prendre avec des pincettes. Hendrik Kerlen dit avoir écrit lui-même des rapports similaires, sachant comment présenter les bénéfices supposés en se basant sur des suppositions douteuses. Selon lui, il s'agit donc d'une décision purement politique, avec sans doute des intérêts des compagnies de construction derrière. Il a essayé d'approcher les milieux politiques allemands à plusieurs niveaux pour expliquer ses doutes quant au bien fondé économique du projet. En somme, est-ce raisonnable de dépenser des milliards pour gagner quelques dizaines de minutes en temps de trajet entre Lübeck et Copenhague ? Mais les milieux politiques restent totalement sourds à ces arguments. L'accord interétatique a été signé. Le symbole, arrimer le Danemark à l'Allemagne par un tunnel, est très fort, c'est vrai. Une fois la décision prise, on ne va pas revenir en arrière tout de même. En ce qui concerne la manière dont on prend les décisions concernant les grands projets en Allemagne, nous sommes un pays sous-développé, dit Kerlen et ses amis protestataires. Pourquoi ne prenons-nous pas l'exemple de la Suisse voisine, où la construction d'un tunnel similaire aurait été conditionnée par l'approbation de la population concernée ? Eh bien, peut-être parce que la Suisse, extrêmement démocratique et extrêmement pragmatique, n'a pas les mêmes ambitions. Autrement dit, est-ce que les grandes ambitions sont compatibles avec la démocratie directe.
Voilà la chronique frontière d'Alexis Patovstev que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture. Retour dans cette semaine sur les métiers du textile, habiller le monde. Aujourd'hui, on parle de la condition ouvrière, au fond, dans ce secteur du textile. Pas facile à dire, avec notamment Jean Ruffier, qui est sociologue, économiste, qui est chargé de recherche au CNRS et qui est directeur du Centre franco-chinois de sociologie de recherche sur les organisations de l'université Sun Yat-sen à Canton. On était avec Sébastien Lebelzik à Pékin. On va aller du côté maintenant du Bangladesh. Aujourd'hui, les grandes marques occidentales du prêt-à-porter fabriquent au Bangladesh avec 80% des exportations. C'est une véritable manne de plusieurs milliards de dollars. Le Bangladesh est devenu d'ailleurs le 4e exportateur mondial dans le secteur du textile.
Il faut assurer le développement du secteur. Si les patrons font des profits, ils vont pouvoir ouvrir de nouvelles usines et employer davantage de personnes. À ce stade de notre développement industriel, il faut qu'il y ait des bénéfices pour permettre aux patrons d'ouvrir de nouvelles usines. Et avec ce nouveau salaire, les ouvriers aujourd'hui sont satisfaits.
Évidemment, ça c'est du côté du patron, mais évidemment, ces conditions de travail, une fois encore, du côté du Bangladesh, elles sont absolument déplorables, ce qui n'a pas manqué d'ailleurs de déclencher un certain nombre de manifestations d'envergure assez importante, des manifestations très réprimées d'ailleurs.
L'an dernier, des milliers d'ouvriers sont descendus dans les rues de Dhaka pour réclamer une augmentation de salaire. La répression, violente, a causé la mort d'au moins 3 manifestants. Les ouvriers exigeaient un salaire minimum de 50 euros par mois. Ils n'ont obtenu que 30 euros.
En termes économiques, je ne pense pas que le salaire minimum fixé aujourd'hui soit la seule option. Un gouvernement réagit toujours en fonction des lobbies et groupes de pression. 23 membres du Parlement sont des propriétaires textiles. Et 53% des députés sont des hommes d'affaires. Eux aussi sont opposés à l'idée d'un salaire minimum plus élevé, car cela affecterait tout le monde.
Voilà, retrouvons Syed Tashfin, qui est le correspondant pour Asia Times Online. Il est avec nous depuis Dhaka, la capitale du Bangladesh. Quelle est la part, Syed Tashfin, de cette industrie du vêtement dans l'économie actuelle du Bangladesh? Et comment est-ce qu'elle a évolué ces dernières années, Syed Tashfin?
En réalité, on entend par industrie vestimentaire les vêtements, le textile et la maille. Ces trois secteurs représentent près de 70% de ce que les exportations rapportent au Bangladesh. Pour vous donner un exemple tout simple, de juillet 2010 à juin 2011, c'est-à-dire sur une année fiscale, nos exportations ont rapporté 22,9 millions de dollars en tout, dont 18 à 19 millions de dollars pour ces trois industries, vêtements, textiles et mailles. C'est donc l'une de nos exportations les plus importantes.
Syed Tashfin, il y a eu de grandes grèves en 2010 au Bangladesh autour de cette décision du gouvernement pour introduire un salaire minimum de 3 000 takas, c'est-à-dire une trentaine d'euros à peine. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que ce salaire minimum a été augmenté par le gouvernement?
Les grèves étaient d'abord liées à l'inflation au Bangladesh. Cette inflation continue très sérieusement. Jusqu'en juillet 2010, le salaire minimum d'un ouvrier tournait autour de 1 500 takas, soit 14,20 euros. Les ouvriers demandaient un minimum de 5 000 takas, 47,50 euros. Ils ont fait la grève parce que les propriétaires des industries vestimentaires refusaient de leur verser un salaire total supérieur à 2 500 takas, 23,70 euros. Il y a eu toutes ces grèves, toute cette agitation. En juillet 2010, le gouvernement a décidé de fixer le salaire minimum à 3 000 takas, soit 28,50 euros. Depuis, ça n'a jamais été augmenté.
Vous connaissez bien sûr Moshrefa Mishu, qui est la présidente du syndicat des ouvriers du secteur du vêtement. Elle a été arrêtée de façon illégale, c'était en décembre 2010. Elle avait été accusée de fomenter les grèves des ouvriers contre le salaire minimum introduit par le gouvernement. Dans quelle situation elle se trouve aujourd'hui ?
En ce moment, elle a été arrêtée chez elle le 13 décembre 2010. Elle a passé près de 4 mois et demi en prison. Pendant ce temps-là, elle est tombée malade. Ils l'ont soignée, mais ils ne l'ont pas relâchée. Elle a été libérée en avril 2011. En ce moment, elle va bien et elle continue à promouvoir les droits des ouvriers.
D'une façon générale, est-ce qu'un ouvrier du secteur vestimentaire peut faire partie d'un syndicat sans prendre de risques ?
Pas vraiment. J'en ai parlé plusieurs fois avec un expert, Sultan Hudin Hamed, le directeur exécutif adjoint de l'Institut bangladeshi d'études sur le travail. Son institut surveille les droits des ouvriers dans les différentes industries. Selon lui, si un ouvrier ou une ouvrière de l'industrie vestimentaire essaye de monter un syndicat au sein de son usine, on le dissuade ou on lui fait des difficultés. Alors finalement, ces ouvriers ne peuvent pas avoir de syndicat à part entière. La plupart de ces usines n'en ont pas. Mais il y a plusieurs organisations, comme celle de Mouchrefa Michou. Ce sont des associations de travailleurs, mais pas réellement des syndicats.
Est-ce que vous pensez que les conditions de travail au Bangladesh pourraient s'améliorer à l'avenir ? À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre concrètement ?
Depuis 2 ou 3 ans, le secteur des exportations au Bangladesh doit faire face à de nouveaux défis. Selon une étude internationale de KPMG, en septembre 2011, comme la Chine a augmenté ses tarifs, les clients se tournent de plus en plus vers le Bangladesh. Il faut donc à la fois conserver les clients que nous avons déjà et prospecter pour trouver de nouveaux marchés, au Japon, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, dans ce genre de pays. Or, ces pays sont toujours très préoccupés par la situation sociale. J'ai demandé à des industriels ce qu'ils comptaient faire et, dans le secteur de la maille par exemple, ils m'ont assuré vouloir améliorer les conditions de travail et les avantages sociaux de leurs ouvriers. Ils y viendront certainement d'ici 2 ou 3 ans. De toute façon, comme me l'a dit Sultan Hudin Hamed de l'Institut bangladeshi d'études sur le travail, la plupart des industries vestimentaires fonctionnent déjà comme cela, parce que c'est ce que veulent leurs clients. Mais les plus modestes sont seulement en train de s'y mettre. Vous savez, en ce moment, le Bangladesh est une destination très lucrative et notre main-d'œuvre y est encore bon marché. Le Bangladesh a un potentiel immense. Si on lui donne les moyens, si le Bangladesh améliore ses infrastructures de fret maritime et aérien, je crois qu'il peut faire des merveilles.
Voilà, Syed Tachfin, merci beaucoup. Donc depuis Dhaka, correspondant pour Asia Times Online, on voit hein, Jean Ruffier, des syndicats très contrôlés, pour pas dire carrément réprimés. Ils sont pas tout à fait interdits, mais sont extrêmement réprimés, extrêmement sous contrôle du pouvoir. Et c'est ce qui permet peut-être, au fond, à ce Bangladesh de devenir le nouvel Eldorado hein, des entreprises textiles, hein, Jean Ruffier.
Oui, c'est-à-dire que quand on voit le niveau des salaires, effectivement, on est à 4 fois en dessous des niveaux des salaires chinois pour la même branche. C'est quand même beaucoup. Quand on voit le montant des exportations, là par contre c'est très peu. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un pays qui décolle tout doucement. Je comprends que le pays essaye de se vendre et il y a encore du travail à faire pour arriver, ne serait-ce qu'être à la capacité chinoise. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont dit il faut que les patrons puissent faire des bénéfices. C'est une condition effectivement. Et c'est peut-être le problème majeur que je dirais actuellement dans l'industrie textile chinoise. C'est que les patrons chinois des usines chinoises n'ont pas de bénéfices assez grands pour pouvoir moderniser leur entreprise. Et le résultat, on voit ces conditions de travail qui ne s'améliorent pas, on voit notamment en termes de pollution, des choses absolument épouvantables, parce que les pouvoirs publics savent bien que s'ils appliquent les règlements, les lois, les usines ferment, elles ne peuvent simplement pas investir.
Si je vous entends bien, au fond, hein, vous ne le dites pas, mais je le comprends, c'est que si on changeait la répartition des bénéfices, on pourrait éventuellement attendre de réels changements s'agissant des conditions de travail des ouvriers. C'est que si on arrêtait, en gros, de payer les entreprises entre 5 et 10% du prix total du produit qu'on vend dans le magasin, peut-être que c'est là qu'on pourrait jouer. C'est ça le levier qui va permettre d'améliorer les conditions de travail des ouvriers, c'est ça ?
Absolument. Et il y a des entreprises qui le font. C'est-à-dire que, je ne vais pas citer de nom, il y a des entreprises françaises qui sont capables de payer 3 fois plus cher que le prix du marché pour avoir des usines en phase 2 qui sont capables de s'améliorer elles-mêmes, de payer de bonnes conditions, de recruter des gens qui restent et qui font carrière dans l'entreprise et donc qui deviennent plus compétents. Ça, c'est des choses qui se font. Mais évidemment, là, il faut avoir des gens qui ont une vision à long terme, une vision éthique, si on veut.
Jean Ruffier, est-ce que quand on travaille dans une usine de textile en Chine, est-ce que ses enfants travaillent également dans une usine de textile ou est-ce qu'on fait tout ? Évidemment, j'imagine qu'on fait tout pour que ses enfants fassent autre chose, mais est-ce qu'on y arrive ?
Ce que je veux dire, j'ai commencé ma carrière à étudier les usines il y a un peu plus d'une trentaine d'années en France et j'étudiais le taylorisme. et la réduction du terrorisme. En fait, il y a une trentaine d'années, le terrorisme était en train de monter en France. Et ce qu'on pouvait voir, c'est que les enfants des ouvriers taylorisés ne devenaient pas ouvriers taylorisés. Ils faisaient autre chose. Soit ils devenaient ouvriers plus qualifiés, soit ils partaient ailleurs. Et on observe la même chose en Chine. C'est peut-être l'obligation de changement la plus forte, elle est là. C'est que finalement, on a dit les ouvriers chinois sont particulièrement dociles. Ben, ils l'étaient quand ils ne pouvaient pas faire autrement, mais ils ne sont pas plus dociles que les autres.
Merci beaucoup Jean Ruffier d'être passé dans le studio. Je rappelle, sociologue, économiste, directeur du Centre franco-chinois de sociologie de recherche sur les organisations de l'université Sun Yat-sen à Canton. Merci infiniment. Et puis également à Sied Tachfid et Sébastien Lebelzik. Culture Monde, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Merci beaucoup à toute l'équipe. Lucille Como, Philippine Proux, Sophie Bober, Pauline Darvet qui a préparé cette émission. À la technique, c'était Ariane Herbet. À la réalisation, c'est Jean-Christophe Francis.